Chers amis, Hashem Alechem Tihyu, les Orechem Tomim et Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre lecture du Sefer exceptionnel Zera Shimshon, du grand maître, l'illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, que son mérite nous accompagne. Nous sommes Parashat Toldot, Darush 4. Dans ce Darush, le Rav ramène une comparaison, fait une comparaison, qui est réellement mentionnée dans le Midrash, entre le fait que David était, avait le teint rouge, était roux, et cette comparaison avec Esav, qui ressemble quelque part à Esav. Alors, nous allons regarder, voir les psukim qui sont mentionnés dans le prophète. Alors, il dit, le prophète, après que Shaoul ait failli à la mission de détruire Amalek, alors que Shmuel lui a déchiré le manteau, et qu'il a perdu sa royauté, que sa royauté va s'interrompre. Alors Shmuel était triste, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, ne reste pas comme ça, ad matan atamitabel Shaoul, jusqu'à quand tu vas t'endeuiller, prendre le deuil de ce qu'a fait Shaoul. Va chez Ishaï Bet Alahmi, et tu vas oindre un de ses enfants comme roi. Il lui dit, prends ta corne, et prends l'huile d'onction, et vas-y. Donc le prophète Shmuel se rend chez Isha et il lui demande, présente-moi tes enfants, parce qu'il y en a un que je dois oindre. Alors Isha, il fait défiler ses 7 enfants devant Shmuel. Mais on remarque que le prophète est étonné, il n'y en a aucun qui correspond. D'ailleurs, quand il a pensé que c'était l'aîné, alors il lui a dit, que je lui ai dit non, toi tu vois l'apparence, mais qui Adam ira la laïnaïn va venir et la levab. Je sais qu'il est orgueilleux, c'est pas lui. Donc à la fin, il lui dit, il n'y a plus des enfants. Alors Isha, il lui répond, voilà, j'ai le petit, il est dans la forêt, il garde des pâturages, il est au pâturage avec les brebis. Alors Shmuel lui dit, envoie le chercher. Il envoie chercher, il veut venir. Or, dès qu'il le voit, il voit qu'il a le teint vermeil, il est roux. Et avec cela, des beaux yeux, une belle mine. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, va, c'est lui. C'est lui, Zéhu. Comme ça dit le pasuk. Le Midrash dit, en apercevant que David a le teint roux, Shmuel, il a peur. Il se dit, cet homme versera le sang comme Esav. Est-ce que lui, il est comme Esav? Parce que Esav aussi. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, Esav verse le sang de sa propre initiative, de sa propre volonté, alors que lui le fera selon la décision du Sanhédrin. Ça, c'est un Yelkut Shimoni dans Parashat Toldot. Alors, cette crainte de Shmuel n'est pas justifiée. Voilà que David devait faire de nombreuses guerres, comme ils le disent les versets, et le même David dit à Shlomo, mon fils, c'était mon désir à moi de construire le Beth Amikdash au nom de l'Éternel. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, il m'a dit, tu as versé beaucoup de sang, c'est ton fils, toi tu ne le construiras pas, mais c'est ton fils qui construira le temple, le sanctuaire. Donc c'est ce qui a marqué ici. Donc le verset, il dit, car tu as fait couler beaucoup de sang devant moi sur cette terre. Donc mais là, et David ne peut pas. Le teint, alors pourquoi il a le teint, et pourquoi il est le roux, pourquoi il a le teint vermeil? Alors c'est pas uniquement un signe que David doit combattre et verser le sang. C'est pas ça uniquement. Mais il traduit aussi la nature de sa personnalité qui semble être mauvaise. C'est pas parce qu'il va faire la guerre. C'est pas, on ira que celui qui est de ce admonie qui est employé pour David, qui est employé pour Essa, ça signifie qu'il y a des mythes de traos. À ce sujet, nous disent Chachamim, ils font la métaphore suivante. Il dit qu'il a épongé de tout son être tout le sang des menstruations de sa mère. Ça veut dire il a bu Beshata Damnida Shelimo. Comme ça il est marqué. Donc ça veut dire que les deux ont fait la même démarche. Alors il en va de même pour David. Et c'est là la raison de la crainte de Shmuel. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, Esav, il a bu le Damnida de sa mère. Les menstruations de sa mère. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et David a imité ça avant ça. Alors, pour apaiser cette crainte, alors, parce qu'il a peur, alors il lui dit, il doit combattre, Mais il ne combat pas comme ça, mais il combat Alpi Torah, d'après le Beit Din. Cependant, cette réponse ne donne pas la raison pour laquelle David éponge le sang de la Nida. D'accord, il va faire des guerres Alpi à Torah, Alpi Halakha. Il va tuer les gens parce que c'était Midat al-Din, c'est le Din qui est comme ça. Parce qu'il le méritait. Mais ça ne dit pas pourquoi c'est-à-dire qu'il a bu, il a adopté un peu l'attitude de Esav. On nous dit le pasouk, nous dit le midrash, Esav, dès l'instant de sa conception, il est attiré, captivé, appâté par les aspects négatifs inhérents à l'acte de procréation. La référence qui est faite au sang de Nida, renvoie au sang versé, le meurtre inutile, c'est la spécialité de Esav. Et d'autre part, il sous-entend un attachement certain pour tout ce qui est plaisir et jouissance de ce monde. Alors bien évidemment, David est très loin de ressembler à Esav. Il dit de lui, moi je suis un vermisseau, je dis de lui-même, c'est-à-dire, Avanitola ad veloi, je suis comme un ver et pas un homme. Je suis l'opprobre des gens et objet de mépris de tout le peuple. C'est-à-dire, il se rabaisse au plus bas. La question qui se pose est pourquoi l'avoir qualifié de Admoni. Comme ça, la similitude apparente entre les deux personnages est trompeuse. Alors, quel secret ça renferme? Le Midrash commande. Haïm va hesed asita imadif kudatra shomra wahi. Le pasouk dit dans Tehillim, dans Job, tu m'as octroyé vie et bonté. Haïm va hesed asita imadif. Et tes soins vigilants, et tes soins vigilants, tu surveilles. Ils ont préservé mon souffle. Alors, ils disent, la matrice de la femme est pleine de sang stagnant. Parfois, il s'écoule et cause l'impureté. Et d'autres fois, il est traversé par une goutte blanchâtre de semence qui féconde l'ovule. Et de suite, le germe de la vie est conçu. Ainsi, la volonté de Hakadosh Baruch Hu se réalise. Ça, c'est un Midrash Rabba dans Vaikra. C'est-à-dire qu'à l'instant de la fécondation, une âme est choisie pour venir intégrer donc la semence, le germe de semence, qui donnera la forme à l'embryon. Alors, la naissance de David soulève un problème dans sa légitimité en tant que juif et en tant que roi. En effet, Ruth à Moavia, accompagne Naomi, retourne en Israël. Cependant, elle s'est convertie. Cependant, elle épousera Boaz, malgré les réticences du reste des sages. Il est dit, Loyavo Amoni au Moab, Bekalachem. Aucun homme, issu des peuples de Amon et de Moab, ne peut contracter un mariage en Israël. Jusqu'à l'époque de Ruth et de Boaz, il était admis que cet interdit s'applique aux hommes comme aux femmes. Et c'est Boaz qui innove, qui réduit cet interdit qu'aux seuls hommes. Il y a marqué « Loyavo Amoni, Omoavi Bekalachem, Amoni, Velo Amonit, Moavit, Moavi, Velo Moavit. » Donc c'est lui qui va limiter l'interdit aux hommes et pas aux femmes. Comme le dit la Gemara dans les Babot, à la page 77a. De ces deux peuples, issus de l'union de Lot et de ses filles, comme on l'a vu, émergeront plus tard deux femmes, Ruth et Naama, la harmonie qui donneront naissance au majeur. Donc les deux, de cette relation qu'il a, Lot, avec ses deux filles, il y a deux peuples qui vont naître, qui vont donner naissance à deux femmes exceptionnelles, Ruth, en l'occurrence, de Moab, et Naama, harmonie, qui donneront naissance au majeur. Cette halakha était inconnue. Elle sera dévoilée pour permettre à la descendance de Yehuda de donner naissance à cette branche, de laquelle va éclore la royauté d'Israël. Cependant, cette halakha, nouvellement innovée, est contestée. Donc, dans la Megillat Ruth elle-même, quand Boaz, il propose aux parents qui est plus proche, Ploni, Almoni, tu veux, il lui dit, l'Ukhal, Penachez et Nahalati, il lui dit, je peux pas me marier avec elle, de peur que je détruise ma descendance. Ça veut dire qu'il pensait que cette femme a été interdite, que s'il a des enfants avec elle, ils sont psoulim, ils sont des enfants qui sont illégitimes. Et donc c'est Boaz qui innove cette halakha-là. Cependant, comme elle n'est pas établie, cette halakha-là, de manière formelle, c'est Boaz qui a fait ça. Alors, elle restera, il va rester un doute qui va planer sur la validité de ce qu'il a fait, Boaz. En épousant, est-ce que c'est vrai, c'est juste, la halakha que Boaz a tranchée, en épousant, en plus, il l'a fait pour lui-même. Et en plus, il meurt tout de suite. Alors, il faudra attendre que Shmuel, que c'est Shmuel, un avis, qui va décréter que cette halakha-là, elle est juste. Comment? Comme la Gemara, elle dit, que quand il y a eu contestation, il dit, car, mes kobanim, mes bedino, chez Shmuel, aramati, que c'est mouta, mon avis, vélo, mon avis, amoni, vélo, amoni, t'es au masculin, au pas féminin. Et la coucha qui est demandée, il y a marqué, alors, mamzer et mamzeret, aussi, tu vas dire la même chose? Aussi, si tu vas dire le issour, il est au masculin et pas au féminin. La Gemara, elle dit, tu savais pas quoi répondre. Là-bas, la Gemara, il y a une tirouze dans la Gemara qui dit, kol kevuda bat meler penima. Ça veut dire que eux, pourquoi les Ammonim et les Moabites, ils sont interdits? Parce qu'ils sont pas sortis à ta rencontre. Quand Israël a traversé leur terre, qui est venu à leur rencontre, ils sont pas venus avec du pain et de l'eau. Alors, c'est pour ça. Alors, Vechi, Darkash, Elisha, la tête, c'est les femmes. Elles sortent pas vers les invités. C'est les hommes. Donc, de là, on apprend que c'est au masculin, l'interdit au masculin et pas au féminin. Alors, de sorte que donc, ce doute-là, il va planer. Un jour, que Ishaï lui-même, il a un doute sur lui-même, puisque lui, il est descendant de Boaz. Alors, de sorte qu'Ishaï, vers la fin de sa vie, est tourmenté par ce doute. Est-il lui-même un Moabite? Est-ce qu'il est descendant de Moab? Dans ce cas-là, il peut pas vivre avec sa femme. Alors, peut-être qu'il est bon, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, dans le cas de Boaz, son ancêtre, Boaz, il était chacham, il était chauffette. Il est un chaînon de la transmission de la Torah orale. Et peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que pas. Alors, il décide, Ishaï, de faire quelque chose qui est de se séparer de son épouse. Alors, sa femme, elle refuse de regret. Elle refuse de guette. Donc, dit le Midrash, il y a des Midrashim sur ça, il va la remplacer par une Shifha Kena'anit. Donc, il prend une Shifha, et il la libère, il a franchi Altna, il fait une condition. Il dit, si je suis un Moabite, alors toi, tu restes une servante, parce que si lui, il est Moabite, et il libère cette femme-là, et elle devient juive, donc il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Alors, il dit, si moi, je suis Moabite, toi, tu restes Shifha. Donc l'enfant, il sera quoi? Il sera, s'il y a un enfant, il sera éveil. Et je le libérerai. Si toi, moi, je suis pas moi, je suis moutard, alors tu es libéré entièrement et on a le droit de vivre ensemble. Ça, c'est il a fait une libération à Tnaï. C'est ainsi que Ishaï a solutionné son problème. La servante, elle va donner sa place à sa maîtresse, à la vraie femme de Ishaï. Et cette femme-là va tomber enceinte. Ishaï, il est Kadosh Noah. Il sait, Loyada Beshurvav Kuma, il sait pas ce qui se passe. Donc il a un rapport avec elle, il la met enceinte, mais il pense lui avoir eu des rapports avec la servante. Donc, cette femme-là, elle est enceinte, sa femme, alors on va dire que elle l'a trompée, elle est tombée enceinte par quelqu'un d'autre. Donc c'est à ce moment-là que David y va naître, et il va être contesté. Il va dire, Muzar a été le Hay, Nochil ibn Imi. Ça, alors, Ishaï pensait avoir une relation avec sa nouvelle femme. Alors qu'en fait, il était avec sa première épouse. C'est vrai que ce genre de pensée, c'est-à-dire, on pense à une femme et il va avec une autre, même si c'est les deux, c'est ses femmes, c'est pas bon, ça crée un défaut dans le, il y a un gamme, c'est ce qu'il y a eu avec Yaakov, ça veut dire, lui, il pensait aller avec Rachel et il était avec Léa. Donc, Réhouven, il était, pour ça qu'il dit, Réhouven, Kohev et Réchitoni. C'est comme si qu'il a un gamme, Réhouven, quelque part. C'est là la raison de ce qu'écrit Rabbi Menachem Azaria Difano. L'âme de David avait de grosses difficultés à descendre. À cause de cela, parce que le gamme de la Kavana, lui, Ishaï, il pensait aller avec la servante, mais il allait avec la vraie femme. Donc, il y avait un problème ici. Et ça empêche la Neshama de David, qui était une Neshama Gevoa, mais haute, très haute, de descendre dans ce monde. Donc, c'est comme ça qu'il dit le Rama Mepano dans Hekor Adin. Alors, revenons maintenant au Midrash. L'âme de David décide de descendre de sorte que la goutte de semence attend de longs instants dans la matrice. Ça prend du temps, il y a un dion, le lieu où stagne le sang, c'est comme on l'a dit dans le Midrash. Elle est alors imprégnée, plus qu'il ne se doit, de cette influence. C'est pour cela que Shmuel aperçoit Admoni, la couleur rouge du sang, a déteint sur lui. Mais qu'il se rassure, cela n'était pas le choix volontaire de David, c'est pas David lui-même, de lui-même qui a choisi ça. C'est à cause de ce fait, de cette situation, de la manière dont la forme que prend la venue de David dans le monde. Alors que pour Esav, c'est lui qui choisit de sa propre initiative de s'attarder pour aspirer et saisir au maximum les influences de ce sang. Cette influence limitée que subit David se traduit par le fait qu'ils doivent exercer la rigueur sur ses ennemis et mettre à mort Alpi Alakha, selon la décision du Sanhédrin, évidemment. Ça, c'est la différence qu'il y a entre David et Esav. Cependant, il y a lieu de se questionner sur la justesse. Est-ce que cette réponse-là, elle est juste? En effet, il est reproché à David d'avoir tué Uriah Hitti, d'avoir lui avoir causé la mort. Il était l'époux de Bathsheba. Et ça, il n'a pas jugé, il n'a pas fait un tribunal. La Gemara dans Shabbat, dans Kiddushin, elle nous parle de cette problématique. Oto Arakda Beherev Ben Amon, lui dit le prophète. Uriah était-il vraiment passible de mort? Quel crime a-t-il commis? Mais au fait, qui était Uriah? Comment a-t-il épousé Bathsheba? Uriah, en vérité, il était, nous dit le Midrash, il était l'écuyer de Goliath. Quand David l'affronte et tue le géant, il abat, il ne peut lui enlever, il y avait un code dans le casque et dans l'épée. Il ne peut ni lui retirer l'épée du fourreau, ni lui enlever le casque pour lui trancher la tête. Ces deux éléments sont enfermés par un code. C'est alors que Uriah, il s'avance et lui propose de l'aide. Il lui dit, si je te montre comment les ouvrir, est-ce que tu es prêt à user de ton influence afin que je puisse me convertir? Et tu me donnes pour procurer une femme. David lui dit, il n'y a pas de problème. Il accepte. Et c'est ça le reproche qu'on va faire à David. Minash Shamim, on va dire, toi, tu proposes aux gens comme ça des femmes, eh ben, tu donneras la tienne. Celle qui était destinée. David, il a marqué, la Gemara dans Psarim, elle dit, pourquoi on dit Eloé Abraham, Eloé Isaac, Eloé Yaakov, et on dit pas Eloé David? Alors, Akash Bokho lui a répondu que les Avot et Kedoshim, ils ont subi des épreuves, ils les ont surmontées. Mais toi, tu n'as pas été mis à l'épreuve. Alors, c'est bon, il dit, David, dit Hachem, vas-y, mets-moi à l'épreuve. Et c'est là, le soir même, va y balayla, le soir même qu'il a dit ça, il a chaud, il y a un problème, il se sent pas bien, il monte sur le toit pour s'aérer. Et là, il va apercevoir Bathsheba qui se lave, qui prend son bain. Alors David, il a perçu ça fortuitement, par hasard. Il envoie son aide de camp, pour se renseigner. Il dit, qui c'est cette femme-là? On lui répond, c'est Bathsheba, Bat Eliam, Eshet Uriah Hiti. C'est Bathsheba, la fille de Eliam, l'épouse d'Uriah Hiti. Après, a marqué, il dépêcha des envoyés. Il a pris, il a, Vaikarota, voyavo Eliam. Plus tard, il y a marqué, elle lui fait dire qu'elle est enceinte. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revenir Uriah du champ de bataille, il lui demande de rentrer chez lui. Alors c'est au matin que David, il apprend qu'Uriah, il n'est pas rentré à la maison, il est resté dans la caserne. Alors, il lui dit, Uriah, David, il demande à Uriah, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait ce que tu as fait, qu'est-ce que je t'ai demandé? Il dit, non, mais comment je peux rentrer? Je peux aller à chez ma femme alors que le Aaron HaKodesh il est dans le champ de bataille et que les serviteurs de Yoav, mon maître, et le chef de guerre, ils sont en combat. Alors c'est là la suite que David renvoie Uriah et à la guerre et il écrit à Yoav ben Tseruya de le mettre en première ligne qu'il meurt. C'est-à-dire de le mettre en première, de l'abandonner en première ligne. De sorte que les ennemis l'abattent. Après, a marqué, quand, plus tard, Nathan en a vu, il va le reprocher, ça, à David, d'avoir fait périr, Veoto, il lui dit, Veoto, Arakta, Behere, Bene Amon. Il dit, toi, tu l'as fait tuer avec l'épée de Bene Amon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rabbi dit, il aurait dû le faire un jugement. Pourquoi il n'a pas fait un jugement? Alors la Gemara, elle dit que tous ceux que les hommes de Amon y tuaient sont. À ce moment, la Gemara poursuit et affirme que tout comme tous pour ceux que les hommes d'Amon, David n'a aucune responsabilité dans la mort de Uria. Il n'est pas tour de la mort d'Uria. Mais c'est la seule chose, c'est qu'il a fait tuer par Harev ben Amon. Pourquoi? Parce que sur Harev ben Amon, il y avait une avodah zara. C'est le reproche qu'on fait. Mais pourquoi? Voto harakta, ce que ça veut dire quoi? Voto harakta, il fallait dire, tu es là, tu es si Uria, il était innocent. Le prophète, il dit pas, voto harakta beharev ben Amon. Il aurait dû lui dire, voto harakta. Pourquoi beharev ben Amon? C'est le reproche, il est, qu'il a été tué par l'épée de ben Amon. Il y avait une avodah zara, il y avait un avodah zara dessiné sur cette épée-là. Alors pourquoi la question elle est, si Uria Hiti il a commis un crime de lèse-majesté, Mored ben Malchut Aya, la Gemara elle dit, s'il était Mored ben Malchut, alors il fallait faire un tribunal. Le Rambam dit, tout celui qui se rebelle contre le roi d'Israël risque la mort. Le roi détient le pouvoir et le droit de le mettre à mort. Le roi qui décrète que tel homme du peuple aille à tel endroit, ou s'il ordonne à tel ordre de ne pas sortir de chez lui, ceux qui n'appliqueraient pas ces lois sont passibles de mort. Cette sentence est laissée à la discrétion du roi et à sa convenance. C'est le roi qui choisit d'appliquer la sentence ou pas. Comme c'est marqué dans le Rambam et le Chos Melachim, les halachot des rois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il semble ressortir de là qu'il ne soit pas nécessaire de le juger devant un tribunal. Ça, c'est le juge de Rambam. Cependant, Tosfot, il dit différemment, il se dit l'obligation qu'un tribunal se réunisse et siège pour juger ce crime, afin de recueillir les témoignages et de les confronter lors des débats. Donc, le tribunal y siège, alors on va discuter. Il est alors possible de dire que David a agi conformément à l'avis de Rambam et que Nathan lui reproche qu'il aurait dû adopter aussi l'avis de Tosafot afin d'essayer de le sauver de la mort. Parce qu'il y a marqué « Véchave-toi et David, si loin Aïda ». Eda, chauffeté, Eda, Matzel, toujours on essaie de trouver, de sauver le condamné. Le tribunal est composé d'un nombre de juges, de sorte qu'il soit appliqué une assemblée qui juge et une assemblée qui condamne. Donc il faut arriver à le sauver. Non, moi, en toutes les quatre choses, David a agi conformément à la loi. Il s'est pas écarté de la loi. David l'a frappé par l'intermédiaire du glaive d'Amon pour montrer qu'Uria avait bien commis un crime de lèse-majesté et devait être exécuté uniquement par le glaive. Parce que celui qui commet un crime de lèse-majesté, il est hayav mita b'cherev. À présent, penchons-nous sur la raison qui pousse David à ne pas le juger devant un tribunal. Alors ça, c'est un autre, on fait une parenthèse. Il dit pourquoi? Bémet, il avait un safek. Ce droit que tient le roi de faire respecter ses ordres et que toutes ces volontés soient appliquées sans exception, aucune, tient dans l'obligation d'avoir la crainte du souverain et de l'honorer. Ce qui est indispensable pour que la stabilité de l'État soit établie et que l'union du peuple se fasse autour du roi. Un roi qui ne doit avoir que la crainte du Seigneur, Kadosh Baruch Hu, celui qui a la peur de quelqu'un, alors il n'est pas roi. Si David avait jugé Uria devant un tribunal, lors des débats, on aurait avancé le fait que le roi avait une relation avec Bathsheba. Certains n'auraient pas manqué de souligner que cela était peut-être la vraie raison pour laquelle il accuse Uria d'un crime que très probablement il n'a pas commis. Dans cette situation, il aurait obtenu l'effet inverse de celui qu'il recherchait. En effet, son autorité aurait été affaiblie, bafouée. Il aurait été lui-même affaibli politiquement. Donc le seul reproche fait à David est que les glaives de Béné Amon, comme on l'a dit, il y avait un serpent qui ondule l'effigie du dieu d'Arkon qu'il y avait sur l'épée. Toutefois, l'avis de Rambam mérite encore réflexion. Car si l'on prend le cas d'Uria comme exemple, il est a priori nécessaire de juger l'accusé, celui qui est accusé de crime de Mored ben Malchut, de lèse-majesté devant un tribunal. Mais cette objection n'en est pas une, car Rambam ne parle que du cas où il est établi sans aucun doute que la volonté de l'accusé de nuire à l'autorité du roi. Alors que dans le cadre, il y a un safek. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant de s'éteindre, avant de mourir, David y fait des recommandations à Shlomo. Et il lui demande de s'occuper de Shimei ben Gera, qui s'est permis de l'insulter quand il fuyait devant son fils Avshalom, qui s'est accaparé le royaume. Pendant 6 mois, David y fuit. Et là, Shimei ben Gera, il l'insulte. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit, on va le tuer, il est Hayamida. Et David refuse qu'il soit mis à mort. Il est évident que Shlomo ne le tuera pas sans raison. Shlomo convoque Shimei et lui ordonne de se construire une maison à Jérusalem et lui interdit de sortir de la ville. Sache que le jour où tu dépasseras la limite de la ville, alors tu es Hayamida. Alors il arriva, alors il lui a dit, la limite c'est la rivière de Kidron. Il arriva, il y avait des animaux qui sont sauvés, donc il est parti pour les rechercher et il a transgressé ce que Shlomo a. Donc il était Hayamida. Nos maîtres enseignent que tous ceux qui partaient à la guerre de David faisaient un guet à leur épouse afin qu'elle soit libérée de toute contrainte. Quand la yotze le milhamet ben David, kotev guet kritut l'ishto. Rachid dit que ce guet était sous condition de la disparition du mari. S'il était tué au combat, alors le guet prenait effet rétroactivement. Mais selon les Tosafot, il y a un effet immédiat. Dès qu'il donne le guet, il est divorcé. Mais on ne divulguait pas la chose, qu'il devait rester dans la totale discrétion, parce que sinon après l'autre il est à la guerre, et il y a quelqu'un qui va venir séduire la femme qui est maintenant, qui est libérée. Il ressort que selon Rachid, David avait intérêt qu'Uria meure à la guerre, afin que sa femme soit depuis le début divorcée. S'il avait été condamné à mort par un tribunal, son guet n'aurait pas pris effet rétroactif, et David aurait alors fauté. Selon les Tosafot, le guet a un effet immédiat. Pourquoi ne pas l'avoir jugé devant un tribunal? Il n'y a pas d'intérêt. Afin que l'on ne dise pas qu'il a cherché un prétexte pour lui prendre sa femme. Alors Nathan, le prophète, reproche à David, tu as tué Uria par le glaive de Hamon. Et tu as pris sa femme. Tu l'as tué pour crime de lèse majesté. Donc tu penses, comme Rachid, que pour que le guet soit valable, c'est rétroactif. Le mari doit disparaître à la guerre. Pour que le guet soit rétroactif, il faut que le mari meure. Mais il poursuit, sa femme, tu as pris. Cela est dit au passé. Tu l'as prise. Pourquoi? Parce que, avant qu'il meure. Donc tu penses quoi? Tu penses comme Tosafot. Que le guet, il a un effet immédiat. Si c'est ainsi, pourquoi l'a porté par le glaive? Comme si que le reproche que le reproche était, tu as joué sur les deux tableaux. Tu as agi comme Rachid, comme Tosafot. Deux thèses qui ne peuvent s'accorder. C'est ça la couchée qu'il y a contre David. Il est à noter que les actions de David concernant cet épisode sont qualifiées de fautes. Pour la forme qu'ils prennent. Et non pas pour le fond. Le thème employé est hatat. Hatat, c'est une faute par inadvertance. C'est de cette union que doit devenir au monde celui qui apportera la réparation à l'ensemble de la création. Il y a aussi, maintenant on peut ajouter un biour. Parce que Uria, quand David lui dit, rentre à la maison. Pourquoi il dit ça? Donc il y a une chita qui dit qu'en vérité, Bathsheba, elle avait 6 ans. Elle n'avait pas de père. Pour ça qu'il dit dans le pasuk, Bathsheba bat Elia et Shet Uria. Pour quel rapport ça a ça? Pourquoi on précise tout ça? Il dit parce qu'elle était petite. Et Ktana Shisiwa Ahea Veima, une petite. Elle n'a pas arrivé à majorité. Et c'est les frères, elle est orpheline, elle n'a pas de père. Donc c'est sa mère et ses frères qui la marient. Elle peut faire mioune, elle peut refuser. Elle est mariée avec quelqu'un, il la marie. Mais le mariage, il est donné à annulation. Dès que la femme, elle veut faire mioune, elle refuse. Le mioune, il y a marqué dans le Ebenezer, qu'elle peut le faire, elle peut le faire même en privé, devant un. Mais ici, il y a marqué qu'il a envoyé des messagers, David, pour qu'elle fasse mioun en public, et devant un bédin, devant des témoins. Quand il dit à Uria, rentre chez toi, pourquoi il lui dit rentre chez toi? Pour que tu entends, toi, Uria, que ta femme, elle a fait mioun, que tu le saches. Et Uria ne veut pas rentrer. Alors, mais il y a un doute, pourquoi il veut pas rentrer? Parce qu'Uria, peut-être qu'il est déjà au courant de l'affaire. Les bruits courent. Donc il dit, il veut jeter le doute sur l'attitude de David. Donc c'est cela qu'il a. Il lui dit, comment tu es pas rentré chez toi? Il lui a dit, Uria, il lui dit, Parce que le Aaron à côté chez au champ de bataille, que les soldats ils combattent, comment moi je vais rentrer chez moi? Il a l'air d'être un grand sadique. Souri Allah, il est hassid, hassida kadisha au prêcha. Il dit, si c'est vrai, alors Mehmet c'est un sadique. Mais peut-être qu'il fait ça, il raconte ça, parce que dans son idée, c'est qu'il y a un doute qui va jaillir, que ça va sortir un doute dans l'attitude de David, et il va jeter l'opprobre sur David. Donc c'est un crime de l'adultère. Comme David dit là, ça fait, il peut pas faire un bedin. S'il fait pas un bedin, il va dire, je vais le mettre en première ligne de Amon, devant Amon. Si c'est un sadique, il mourra pas. Si c'est un rachat, il mourra. Donc c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a voulu trancher le safek qu'il avait en faisant ce din-là. Peut-être que Béhémet, il méritait pas de mourir. Alors c'est pour cela qu'il l'a mis en première ligne. Et avec ça, il a vérifié qu'en vérité, s'il est mort, ça signifie que Béhémet, Ouria, il avait une kavana mauvaise. Il était Béhémet réellement que Moret de Machot, et il a commis vraiment un crime de lèse-majesté. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Ce limoud, il est l'ilou nishmata sur Mohamed Zikolet Baninet, Mordechai Bariz, Amenim Yaakov Azouar Etrout, Gabriel Eliaou Bar Penina, Yvette Halou Badjeli, Zichonam le Haye Olam, pour la refoua Shelema, refoua Tenefesh, Vatagouf de Nissan Tzvi Bar Dvorah, Yosef, Yoshua Bar Esther, Sarah Rahel, Batjeli Dese, Yodid Egeni Michel Bar Rahel, Haya Moshka Esther, Bar Tzipora, Yosin Naomi, Bativet Esther, Haim Bar Simiel, Amram Bar Yakut, Eliyahu Bar Frecha, David Bar Saada, Tadori Bivian Bat Naomi, Shimon Bar Josephine, Haim Bar Esther, Saada Bat Mesodi, Nathalie Shoshana Bat Nikol Kolet Lala, Sher Mesod, Ben Mesoda, Regis Lomo Bar Yola Elian, Bracha Bat Haya Figel, Moshe Eliyahu Bar Levana, Haim Bar Shlomit, Anna et Nafanem, Anna et Nafanem, sous ta toile, vous sous ta m'haber, t'as gagné par Adam, que la cause beaucoup leur toile, une santé et une longue vie. Tous ceux qui sont en attente d'être délivrés d'une souffrance, de trouver une épouse, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure parnassa, par le mérite du Rav HaKadosh Baruch Hu octroiera à chacun ce qu'il est en attente d'obtenir. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.